Nous voici arrivés, chers auditeurs des souris et des lettres, à notre sixième rubrique, celle des sites du jour. Vous en connaissez maintenant le principe, nos collègues prennent leur casque d'explorateur du web pour dénicher des sites permettant d'enrichir nos connaissances et nos pratiques d'enseignants. Et c'est Angélique qui reprend le micro pour nous faire découvrir Tacite, un site de remédiation présenté par ses auteurs comme un outil pédagogique permettant d'améliorer la compréhension des enfants en lecture, en particulier l'implicite des textes. Voilà qui est prometteur. Toi qui l'as testé ce site, Angélique, peux-tu nous en dire davantage ?
Oui, alors Tacite, c'est un site qui m'a totalement conquise, dans le sens où il s'agit d'un véritable outil pédagogique. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien à voir avec l'auteur romain, le nom du site s'écrit sans le final, et sa signification fait référence à l'adjectif, ce qui est tacite et ce qui reste sous-entendu. Grâce à des exercices proposés, les élèves inscrits peuvent travailler ce qui est sous-entendu dans un texte, c'est-à-dire l'implicite. Tacite permet donc de travailler ce que nous appelons l'inférence. Quand nous évoquons au collège les problèmes de lecture, il s'agit moins de problèmes phonologiques que de problèmes de compréhension. En effet, en lecture, les élèves apprennent assez rapidement à repérer l'information lorsqu'elle est explicitement formulée. Ils peuvent parfois recopier textuellement des données pour répondre à des questions de compréhension qu'on leur pose. Ils ont beaucoup plus de difficultés à dégager l'information lorsqu'elle est implicite, lorsqu'ils doivent lire entre les lignes, bref, lorsqu'ils doivent inférer. Et moi, en tant que professeur, vraiment, je peinais à faire travailler ce type d'opération logique permettant d'expliciter une information implicite. Souvent, j'avais même du mal à repérer leurs problèmes. Leurs problèmes varient beaucoup selon les élèves. Pour certains, il s'agit de la chronologie. Pour d'autres, cet implicite repose plutôt sur la lecture des pronoms, sur la relation des causes-conséquences. Parfois, un problème de vocabulaire plus spécifique peut les perdre totalement. Enfin, bon, la liste n'est pas du tout exhaustive. Quand je trouvais certains exercices, en plus de ça, souvent, ils me paraissaient beaucoup trop enfantins. Alors, les élèves étaient un petit peu vexés quand je leur proposais... C'était un petit peu dévalorisant pour eux de se retrouver mauvais lecteurs et d'avoir en plus des livres pour petits enfants. Alors, du coup, j'ai testé Tacite et ça répond à tout cela. Il varie les niveaux d'inférence, il valorise l'élève, il complexifie le niveau d'exigence, il permet de différencier et pour le professeur, il est simple, pratique dans sa manipulation, je ne lui trouve aucun défaut. J'ai d'abord créé un compte d'essai, ce que tout le monde peut faire, et je vous invite à le faire pour tester cette ressource. J'ai sélectionné pour ça des élèves que j'ai en troisième en remédiation lourde pour des problèmes de lecture importants. Tous ces élèves reconnaissent d'ailleurs ces difficultés. Ils ont tous été séduits. Tout d'abord parce que le site est hébergé par l'université de Rennes. Ça, mes élèves l'ont vu et ils ont considéré qu'il s'agissait d'une ressource sérieuse et valorisante. L'interface est très claire, le repérage très aisé. Une fois connectés, ils peuvent soit effectuer des évaluations, diagnostic intermédiaire ou final, soit s'entraîner. Une fois l'évaluation diagnostic effectuée, le site propose au professeur d'inscrire l'élève dans un groupe de niveau de lecture. Ces niveaux de lecture s'échelonnent des lettres A à J, ce qui reprend un petit peu les principes de littératie dans les pays anglo-saxons. L'évaluation de l'élève, pour vraiment l'inscrire dans le groupe, est très très fine. Tous les aspects de l'inférence sont testés. La lecture des résultats est très précise aussi. L'élève n'apparaît pas juste dans un niveau, mais sur un axe gradué à l'intérieur même du niveau. Pour situer l'élève, le site prend également en compte le temps de réponse de l'évaluation, ce qui n'est pas négligeable, effectivement, puisque ça prend en compte le temps de lecture de l'énoncé. Le professeur a accès au taux de réussite pour chaque question posée, et ça permet de retravailler plus spécifiquement certaines propositions en classe entière si ces propositions ont vraiment été peu réussies. Exemple d'un entraînement sur lequel mes élèves ont beaucoup buté, par exemple, la consigne était chez les Martins, le cyclisme est une affaire de famille. Florent, 14 ans, en est déjà champion régional, comme son père l'a été, ainsi que le père de son père. Question posée, quel sport pratiquait son arrière-grand-père ? Proposition 1, il ne pratiquait pas de sport. 2, le cyclisme. 3, je ne sais pas. 4. Le texte ne permet pas de répondre, ce qui est la bonne réponse, dans la mesure où il n'est question à aucun moment de l'arrière-grand-père de Florent, mais de son grand-père. Et une lecture trop rapide amène l'élève à se tromper. Et mes élèves, en retournant voir la question, n'arrivaient pas à bien cibler leur erreur. Petit détail pratique aussi, possible par le site. On peut changer l'élève de groupe quand il le souhaite, même en cours de séance. Cette gestion est vraiment très aisée pour les entraînements. Le paramétrage est aussi facile d'accès, c'est très très appréciable. Donc mon bilan, les élèves ont progressé, ils s'impliquent réellement dans les exercices. Je faisais remarquer à une élève qu'elle faisait moins d'efforts lors des évaluations en classe, qu'elle se démotivait très vite, et sur un texte notamment parce que le vocabulaire était aussi compliqué que celui sur le site. Et elle m'a répondu en classe, madame, vous ne me demandez pas de réfléchir, juste de répondre. Donc c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire pour amener les lecteurs à une lecture autonome, beaucoup plus fine. Mais cette pratique vraiment du site, vraiment une pratique intelligente, fonctionnelle de la compréhension de texte, m'a séduite. J'en ai parlé à mes collègues et de ce fait, le collège est passé sur la version payante pour une somme tout à fait modique. Et nous avons inscrit également les PPRE passerelles en 6e. Et mes collègues qui l'ont testé sont aussi conquis que moi.
Eh bien, après un site consacré aux compétences liées à la pratique de la lecture, en voici un second, sans doute aussi formidable, dont les objectifs semblent davantage tournés vers le domaine littéraire. C'est Christelle qui nous le présente.
Serge, chers auditeurs, un site a retenu mon attention. Il s'agit d'Archives Zoliennes, un site qui peut aider nos élèves à entrer dans l'univers des Rougon-Macquart. Émile Zola est en effet un auteur étudié au collège, en 4e. Et en seconde, dans le cadre de l'objet d'étude, roman ou nouvelle, réalisme et naturalisme. Mais il est parfois difficile pour nos élèves de comprendre cette œuvre. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Olivier Lombroso, professeur des universités à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'Émile Zola, du naturalisme et de didactique, nous présenter ce site dont il est le cofondateur. Alors, bonjour Monsieur Lombroso, pouvez-vous nous présenter Archives Zoliennes ?
Bonjour Madame. Cette invitation. Effectivement, le site des Archives Zoliennes est actuellement le seul site en France à faire converger un ensemble d'archives autour d'Émile Zola, de sa vie, de son œuvre et de la réception de ses romans. En plus, à cela s'ajoute un héritage de nature patrimoniale concernant l'affaire Dreyfus. Des sites sur Émile Zola, il en existe évidemment à travers la toile, mais l'originalité de ce site, je dirais, est à la fois la richesse de ces documents et en même temps leur qualité. En effet, ce site est un site scientifique. Même s'il est destiné au grand public, il n'est pas réservé qu'à un public évidemment d'experts, de spécialistes et de littérature, il est ouvert au grand public, il n'empêche qu'il s'est donné un cahier des charges de qualité. De qualité et de quantité. Les deux, au fond, étant compatibles. Alors pourquoi la qualité? Parce que ce site est d'abord un projet ANR. ANR, ça veut dire quoi? C'est le site de l'Agence Nationale de la Recherche. Ce site a donc bénéficié du financement de l'ANR, donc une estampille scientifique. Il est implanté à l'Université Paris 3 et à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, où existe une équipe très ancienne, fondée dans les années 70 par Henri Micran, l'équipe Zola, spécialiste de Zola et du naturalisme. Alors, je dirais que ce site a donc un avantage. À la fois, il pense l'archive, il ne s'agit pas simplement de déposer des documents de façon brute. Ce site, je dirais, les organise, ce site les présente, en rend l'accès et le parcours possible pour un internaute, qu'il soit élève, enseignant ou dodo. Donc, je dirais que c'est ça l'originalité, c'est d'avoir associé ensemble l'ITEM, centre du CNRS, Paris 3, d'une université, une agence de soutien financier, l'ANR, et évidemment la Bibliothèque nationale de France, qui est notre partenaire. Alors ce site, évidemment, je ne l'ai pas fabriqué seul, ni le projet. Il y a à la tête, je dirais, Alain Pagès, qui est professeur des universités à Paris 3, et Jean-Sébastien Mac, je dirais, qui pilote la dimension technique, technologique, de la dimension numérique de ce site, et qui l'alimente aussi de sa réflexion. Voilà un peu rapidement planter le paysage.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et fort intéressante, Monsieur Lombroso. Je me permets de vous poser cette deuxième question, puisque le thème de notre émission est de donner des outils pour donner le goût de lire. En quoi ce site peut-il aider nos élèves à mieux comprendre et apprécier l'univers zolien?
Alors, effectivement, je crois d'abord que ce site est important dans la mesure où il donne l'accès à un ensemble d'archives. L'œuvre de Zola est gigantesque. Il a écrit trois grands cycles, vous savez, les romans d'Akkar, les trois villes, les quatre évangiles, mais il y a à côté de cela les contes et les nouvelles, les documents critiques, une correspondance, etc. Comment faire quand on est un enseignant pour s'y retrouver dans cette forêt de documents? Le site Archives aide à la lecture parce que d'abord, il aide à accéder à un document. C'est-à-dire que vous trouverez sur le site un ensemble de rubriques qui constituent des banques de données. Par exemple, les œuvres de Zola avec les Rougon-Macquart, le texte officiel de l'édition publié chez Charpentier. Vous pourrez faire des recherches lexicales dans l'ensemble de ces textes. Premier intérêt. Deuxième banque de données, l'iconothèque zolienne, qui correspond à peu près à 1500 documents dans le domaine de l'affiche, de la caricature, des cartes postales, du cinéma, des couvertures de romans, des dessins de la main de Zola, d'objets, de partitions, de peintures ou de photographies de Zola ou sur Zola, ce qui correspond à un corpus extraordinaire que vous retrouvez synthétisé, rassemblé sur un seul et même site, estampillé par le CNRS. Alors je dirais que aider les enseignants à fabriquer des séquences sur Zola, aider les élèves à s'enrichir au contact de cet auteur, c'est déjà rendre possible l'accès aux archives. Et ça, c'est une première chose. La seconde chose, je dirais, c'est l'intelligibilité que nous donnons à l'archive. C'est-à-dire que chacune de ces banques de données est accompagnée de chapeaux explicatifs rédigés par notre équipe, permettant à tout public de comprendre, je dirais, l'origine du document, de le recontextualiser dans l'époque, éventuellement de flécher quelques événements contemporains, bref, de donner des clés pour interpréter, comprendre le document que nous avons sous les yeux. Et vous savez que c'est absolument essentiel, qu'une image mérite d'être décodée, elle n'est pas naturellement accessible, c'est un objet culturel, il faut donc le contextualiser. C'est ce qui rend aussi ce site, scientifique. Voilà. Après, on pourrait aller plus loin, mais je vous laisse avancer dans votre questionnaire.
Merci beaucoup. C'est vrai que on voit que votre site est à la fois un site de ressources et nous avons vu que c'était aussi un laboratoire pédagogique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Absolument. Je dirais que je suis assez attaché à cette dimension-là. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre le site Archives et d'autres sites excellents sur les auteurs, les écrivains, les archives d'autres écrivains, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? Évidemment, des contenus, un auteur, un imaginaire, un univers, mais aussi la relation que nous entretenons à ce site. À savoir que pour nous, il est un outil. Il n'est pas une finalité en lui-même. Il n'a de sens que parce qu'à un moment donné, une personne, un cerveau, une sensibilité, s'approprie le document. Notre travail, à côté du site Zola en lui-même, est d'avoir constitué une équipe de professeurs du second degré autour d'une IPR, une inspectrice, qui est Madame Françoise Gomez, actuellement inspectrice dans l'Académie de Paris. Et j'ai souhaité fonder cette collaboration assez étroite entre un laboratoire de recherche et une institution de l'éducation nationale. Je vous avoue que je suis très heureux que ce partenariat existe, car il est très fécond. Autour de cette petite équipe d'une dizaine d'enseignants, nous essayons d'envisager la façon dont le site Archives peut être intégré aux séquences pédagogiques des professeurs, au collège, au lycée, dans les filières générales autant que dans les filières techniques. Et je vous avoue que les résultats sont très intéressants, parce que les professeurs nous font remonter des avis, des commentaires sur l'usage possible du site et nous amènent parfois à modifier d'ailleurs l'organisation des documents, à être plus explicite sur tel ou tel parcours, telle ou telle navigation, tel ou tel document. Donc je dirais que c'est absolument essentiel. Et le grand plaisir que nous avons, c'est de voir que les élèves s'approprient le site. Non pas parce que le site est formidable, génial, non, parce que ce site, au fond, est pensé dans son appropriation par les professeurs et par les élèves. Et je crois que ça, c'est un aspect essentiel du travail de pédagogue, mais aussi du travail du chercheur, s'il veut aller jusqu'au bout du processus de transmission sociale des archives et donc de notre patrimoine.
Eh bien, en tout cas, merci pour cette explication. Je terminerai en fait cet entretien sur une question qui permet d'anticiper sur le prochain thème de l'émission numéro 15, émission suivante. En effet, l'idée est d'aider nos élèves à mieux écrire. On voit dans votre site que le travail préparatoire de Zola est mis en évidence. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la fréquentation du site comme outil, comme aide pour nos élèves dans une perspective d'écriture cette fois-ci?
Oui, alors écrire, lire, dire, bien que ce sont trois compétences qui se croisent et s'entre-nourrissent évidemment, il n'empêche que l'écriture a un statut particulier par rapport à ce site et par rapport aux activités pédagogiques, voire aux activités de recherche en didactique de la littérature que nous pourrons faire et pour lesquelles je suis personnellement très impliqué. Au fond, l'idée est la suivante. Il existe chez Zola une manière de pointer des formes d'écriture qu'on utilise assez peu à l'école, de façon générale avec un grand E, que ce soit à l'école élémentaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Quel est ce constat? Il est le suivant. Très souvent, on fait écrire les élèves dans un cahier de brouilleux. Très souvent, lorsqu'un élève n'arrive pas à écrire, on lui dit « commence par faire un brouillon, commence à écrire, cela viendra en écrivant ». Je dirais que cette démarche-là, qui peut paraître une démarche naturelle et totalement légitime, et elle l'est, est en fait un choix culturel. Et la critique génétique nous le dit, nous le démontre. Il existe chez les écrivains des formes d'écriture qui ne partent pas sur cette logique-là d'une écriture in medias res, c'est-à-dire d'un scripteur qui se lance tout de suite dans l'écriture d'un brouillon pour en faire une première version, une deuxième, et ainsi de suite. Car il existe des écrivains, dont Zola fait partie, qui, préalablement, ont besoin d'un ensemble de documents préparatoires. Alors, ça peut être des documents, je dirais, de nature créative, une ébauche, un scénario, mais ça peut être aussi des documents plus documentaires, des listes, des fiches, des notes d'enquête, voire des croquis, des dessins, qui peuvent être à la limite soit documentaires, soit fictionnels. Alors, j'ai appelé dans quelques articles cette façon de travailler le pré-rédactionnel, et notamment du point de vue de l'enseignement, une didactique du pré-rédactionnel, en se demandant si cette façon de travailler chez les écrivains peut avoir un sens, une portée et une utilité si on le transpose à l'école, au collège et au lycée. Et bien effectivement, nous nous rendons compte à travers certaines expériences que nous menons qu'il peut être extrêmement stimulant pour certains élèves, dans certaines situations avec certains projets, d'utiliser des démarches de nature pré-rédactionnelle qui vont en quelque sorte déplier, déployer le processus d'écriture avant d'entrer dans la phase rédactionnelle. Alors ça, c'est quelque chose d'assez neuf, et je dirais que c'est quelque chose qui dépasse évidemment Zola, car Zola n'est pas l'inventeur du pré-rédactionnel, ni d'une démarche d'anticipation, ni d'une démarche de projet, mais en tout cas, il en incarne une certaine réalisation. C'est pour ça qu'à mon avis, le site Archiz vient nourrir cette fois-ci une démarche qui serait celle d'une étude anthropologique du projet d'écriture qui va bien au-delà de Zola, du roman au XIXe siècle, d'un genre, d'une époque et d'un auteur. Cela étant, je le redis, Archiz et Zola nourrissent, illustrent, incarnent une forme de démarche pré-rédactionnelle. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lombroso, pour toutes ces explications. Vous nous avez vraiment donné envie de nous rendre sur ce site avec nos élèves, et nous espérons pouvoir vous donner évidemment d'autres pistes pour enrichir votre site. Un grand merci.
Et je vous remercie, Madame Delas. Au plaisir pour nourrir la réflexion et éventuellement construire aussi de nouvelles collaborations. À très bientôt.
Au revoir.